Frédéric Lasserre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Bellaco Capital. On va parler avec vous de matières premières, hein, des matières premières qui posent question vraiment cette année 2014, vu les niveaux atteints très bas par les cours du pétrole. C'est vrai qu'on aurait pu penser initialement qu'avec tous ces conflits, on va dire notamment dans certaines zones pétrolières, eh bien le baril de pétrole serait peut-être au-dessus des 100 dollars. C'est pas le cas. Quelle est l'analyse que vous faites donc aujourd'hui de ce marché ?
Alors c'est vrai que les cours du pétrole ont corrigé assez violemment, on traitait encore 115 dollars le baril en juin dernier et maintenant on approche de la barre des 80, donc c'est une correction tout à fait significative. Le principal élément, je crois qu'il n'est pas spécifique aux matières premières, il explique en partie la correction sur les marchés actions. C'est un retournement complet du consensus économique sur les perspectives de croissance à court et moyen terme maintenant. Aujourd'hui, le consensus est clair, 2015 ne sera pas une année marquée par une reprise de la croissance économique, alors même que dans certaines zones, l'Europe en particulier, c'est plutôt le scénario la japonaise qui commence à devenir le scénario central. Donc face à ça, évidemment, les opérateurs ont également traduit ces perspectives en termes de contraction de la demande, ou en tout cas d'atonie complète de la demande, dans un marché qui portait déjà des excédents, donc ce qui explique la violence de la correction qu'on a connue ces derniers mois.
Alors on pouvait dire qu'effectivement jusqu'à présent, il y avait donc ces tensions géopolitiques, ces tensions auraient pu amener, parce qu'on voyait qu'on était sur des certaines zones, on parlait de l'Irak notamment, on voyait la Libye avec, on ne sait même pas ce qui se passe exactement dans ce pays aujourd'hui. Donc on voyait des zones potentiellement concernées et finalement c'était, il n'y avait pas une flambée des cours du pétrole.
Non, alors en d'autres temps, il est vrai qu'avec un tel agenda géopolitique, comme vous l'avez dit, entre l'Irak, la Libye, la Syrie, la bande de Gaza, plus d'autres pays plus anecdotiques, on aurait dû avoir une prime de risque qui s'intègre dans les cours et qui reflète le risque de baisse ou de chute de production assez significative. Ça n'a pas été le cas. Alors pour deux raisons. D'une part, encore une fois, le marché était déjà en excédent, avec d'une part des stocks relativement importants, des stocks commerciaux, aux mains des privés relativement importants, un excédent de production qui est venu en fait progressivement du retour de la Libye, alors même que l'Arabie Saoudite ne lui a pas véritablement rendu ses parts de marché, et puis surtout, de façon plus structurelle, cette idée que maintenant, avec la croissance de la production des pétroles de schiste aux États-Unis, on va vers un marché de mieux en mieux approvisionné, qui a de plus en plus de possibilités de substituer des pertes de production par des croissances de production dans d'autres zones géographiques.
Alors, il y a quelques années encore, on aurait aussi parlé, bien entendu, de la Chine. La Chine qui faisait quelque part quasiment ses marchés, au-delà des aspects géopolitiques. Et on voyait, à chaque fois qu'on voyait une forte demande en Chine, effectivement, on avait des réactions en chaîne. Ça donne aussi une idée que l'économie chinoise n'est plus ce qu'elle était.
Alors tout à fait, d'une part parce que son niveau de croissance annuel est retombé à des niveaux beaucoup plus normalisés, on est à peine à 7% maintenant de croissance annuelle, et puis d'autre part parce que la nature même de l'économie chinoise a changé. Il y a encore 10 ans, on avait une croissance de pétrole équivalente quasiment à la croissance du PIB, donc c'était du 1 pour 1 en termes d'élasticité, 10% de croissance, 10% de croissance de la demande de pétrole. Aujourd'hui, on est à moins de la moitié, à 7% de croissance économique, on va avoir à peine 3% de la croissance de la demande de pétrole chinoise. Donc ça traduit d'une part de façon conjoncturelle le ralentissement économique et d'autre part cette transition qui est voulue par les autorités chinoises d'une économie beaucoup plus tournée vers la consommation domestique que vers l'exportation.
Alors on peut dire aussi que sur ces marchés-là, finalement, les investisseurs ont anticipé ce qu'on est en train de réaliser sur la partie économique. C'est-à-dire les marchés des matières premières ont anticipé un petit peu les questions qu'on évoquait en introduction, une économie moins forte que prévu, une reprise moins forte que prévu.
Tout à fait. Alors, d'une part, on connaît le rôle d'indicateur avancé des marchés matières premières par rapport au cycle conjoncturel économique. Elles ont de nouveau joué ce rôle, manifestement. Et puis, il y a une autre explication, c'est que on avait manifestement des marchés actions qui ont corrigé plus tard, dont les valorisations étaient également portées par notamment l'impact de politiques monétaires très accommodantes qui n'avaient pas d'influence sur les cours des matières premières. Donc, on avait déjà ce décalage de valorisation, de fair value, quelque part, entre les marchés actions et les marchés de matières premières. Aujourd'hui, encore une fois, avec ce renversement du consensus économique sur les perspectives à moyen terme, on a plutôt une convergence de nouveau et ce sont les marchés actions qui sont venus corriger vers les marchés matières premières.
Est-ce que on a peut-être sous-estimé justement cette révolution entre guillemets du schiste effectivement aux États-Unis, c'est-à-dire le fait que les États-Unis devenaient eux-mêmes producteurs et du coup ça change complètement la donne au niveau mondial?
Alors, on l'a d'évidence sous-estimé au tout début de l'aventure. Maintenant qu'on a un peu plus de recul, 5-7 ans pour les premiers champs, on voit bien que, d'une part, l'importance des réserves est tout à fait significative, et d'autre part, effectivement, la croissance est assez régulière. Donc, la production américaine augmente de 1,5 à 2 millions de barils par jour. Là où on s'est peut-être trompé, c'est sur les perspectives de la demande. On pensait que la croissance de la demande, quelque part, serait du même niveau et donc quelque part on resterait peu ou prou à l'équilibre, la croissance américaine venant simplement satisfaire la croissance de la demande, ce qui voulait dire que la part de marché des autres producteurs et en particulier de l'OPEP resterait peu ou prou stable. Ce n'est pas le cas avec la contraction, en tout cas l'atonie de la demande, on n'est pas encore en baisse de demande mais on a une demande qui est pratiquement à zéro maintenant. Eh bien, on se retrouve avec cette croissance de la production américaine qui vient en excédent et non pas pour satisfaire une demande.
Alors, du côté des pays, bien sûr, l'Arabie Saoudite en premier lieu, on voit qu'on a effectivement des affirmations sur 80-90 dollars, on va dire, on sent que c'est le niveau. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus bas finalement si on reste dans cet état économique entre deux?
Alors, c'est une décision qui va relever d'une vraie décision stratégique, encore une fois, plutôt de moyen terme que de court terme. À court terme, effacer l'excédent qui est aujourd'hui à peu près de 1 million de barils le jour, soit à peine 1% de la demande mondiale ou de l'offre mondiale, comme on veut, pour l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un effort démesuré, c'est facile, ça peut être assez rapide. Par contre, la décision, elle relève beaucoup plus du choix, encore une fois, de est-ce que je laisse mon concurrent nord-américain en l'occurrence, prendre mes parts de marché, donc je baisse ma production au fur et à mesure que lui l'augmente. Donc d'une part, je lui donne mes parts de marché, je fais un transfert net de parts de marché, et d'autre part, je lui garantis un niveau de prix auquel les investissements dans les pétroles de schiste sont rentables. Donc quelque part, je rentre dans une spirale un peu négative où je ne fais qu'accumuler le problème au fil du temps, puisque j'encourage mon concurrent direct en lui garantissant des prix suffisants. A l'inverse, si l'Arabie Saoudite décide quelque part de rentrer dans une guerre des prix, quelque chose qu'elle a déjà fait en plusieurs occasions, notamment dans les années 80 de façon assez violente pour essayer de ralentir les investissements en mer du Nord en particulier, ça nous promet des niveaux de prix significativement plus bas parce que pour ralentir les investissements dans la zone nord-américaine, il faut amener les prix significativement en dessous de 70 dollars voire 60 dollars le baril et les y maintenir pendant un temps assez important pour encore une fois démotiver quelque part les producteurs américains d'investir dans de nouvelles capacités.
Voilà, on n'en est pas encore là. Alors il y a quand même deux pays auxquels on pense, c'est l'Iran et la Russie, bien entendu. La Russie, à ces niveaux de prix, ça pose problème pour le pétrole russe?
Alors pour le pétrole russe, ça pose problème. Encore une fois, le budget russe, lui, s'équilibre beaucoup plus à 90 dollars le baril. Donc c'est comme ça qu'il est construit en termes d'hypothèses. Donc on voit bien que déjà aujourd'hui, on est en dessous des hypothèses. Donc ça va se traduire par du déficit budgétaire accentué, forcément. D'autre part, il est vrai que d'un point de vue purement géostratégique, si ça ne fait pas l'affaire des producteurs américains, cette baisse des cours, en revanche, le gouvernement américain, qui n'est pas exactement les mêmes intérêts que les producteurs stricto sensu, peut voir ça plutôt d'un bon oeil, ça met une pression forte sur la Russie, ça encore une fois ralentit peut-être ses velléités et dans le contexte actuel de menaces réciproques, d'embargos commerciaux pour essayer encore une fois de faire plier la Russie notamment sur le sujet de l'Ukraine, ça vient donner un rapport de force plutôt favorable aux États-Unis et aux pays occidentaux de façon générale.
Merci Frédéric Lasserre d'avoir fait le point avec nous sur ces marchés pétroliers.